Bonjour, c'est Fred. Vous êtes bien dans l'émission Combien de temps encore sur CFM Radio. Alors aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu spéciale puisqu'on va parler de nos forêts. Et on va recevoir, je vais recevoir Emmanuel Buroni de l'association Vallée Éco à Ginals dans le Tarn-et-Garonne. Qui nous parlera de sylviculture douce. Mais avant cela, on va recevoir Gaspard Dalens, qui est journaliste, un reporter, auteur de plusieurs essais, Les Néo-Paysans, coécrit avec Lucille Leclerc en 2016, et Bure, La bataille du nucléaire, coécrit avec André Fiori en 2017. Et Gaspard Dalens vient aujourd'hui nous parler de son dernier ouvrage, Main basse sur nos forêts, qui aborde, qui fait un état des lieux de nos forêts, et on découvre que c'est une situation assez dramatique pour nos arbres. Donc, merci Gaspard Dalens d'être présent pour cet entretien. Alors, c'est la lecture de l'introduction qui m'a vraiment incité à faire cette émission, qui pourrait sembler s'éloigner des thèmes de la cause animale. Mais je pense que votre essai sur les forêts souligne de nombreux points communs, de nombreux thèmes communs, et des problèmes qui touchent aussi bien l'exploitation animale, c'est-à-dire des êtres vivants animaux, et du vivant en général. Voilà. Donc tout d'abord celui des territoires, de l'exploitation violente par l'homme de plus en plus d'espaces sauvages, ou en tout cas semi-sauvages, et de la destruction des écosystèmes de ces espaces. Mais surtout cet essai met en relief la violence de systèmes de société basés uniquement sur la notion de rendement, de profit. Vous soulignez vraiment de façon très pertinente le problème du productivisme et puis de cette logique à court terme, du non-respect du vivant. Et ce sont bien là les principales causes des désastres environnementaux que nous avons engendrés. Il y a aussi un passage très intéressant sur la notion de verdissement des lobbies, hein, des principes. Enfin voilà, de tout ce qui est des activités qui humaines qui se dissimulent sous des mots, des labels qui n'ont vraiment plus de valeur. Il y a un chapitre sur un label qui est décerné à un parking. On retrouve vraiment des problèmes fondamentaux qui touchent l'exploitation du vivant en général. Alors moi, quand j'ai lu ce livre au début, au fur et à mesure de la lecture, je suis tombée de haut parce que je ne connaissais pas du tout le problème de nos forêts. On est focalisé sur le problème des forêts, des forêts amazoniennes, en Indonésie, en Polynésie. Bon, c'est bien, c'est dramatique aussi, mais on oublie ou on méconnaît ce qui se passe dans les forêts. Donc, on va peut-être parler déjà d'un état des lieux et puis de l'enrésinement, des coupes rases. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour présenter un peu cet état des lieux.
Oui, bonjour. Donc c'est vrai, cette enquête, elle est pour moi importante parce qu'elle montre le paradoxe de la situation actuelle, c'est-à-dire que la forêt représente près de 30% de notre territoire national, 16,9 millions d'hectares, et pourtant nous en sommes largement dépossédés. On connaît très très mal ce territoire-là, et donc mon livre souhaitait revenir sur ces questions, en sachant aussi que voilà, il y a aujourd'hui un attrait, un engouement très important pour l'arbre. On l'a vu avec le livre notamment de Peter Wohlleben qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires justement l'intelligence des arbres, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où on connaît très mal l'état de santé, la qualité de nos massifs forestiers aujourd'hui en France, et pourtant ils subissent, comme vous le dites là dans l'introduction, subissent les mêmes dérives productivistes que l'agriculture. On a encore, on va dire, on a 20 ans d'avance dans l'agriculture intensive par rapport à la sylviculture intensive, mais elle subit un peu la même évolution dramatique. Alors, pas partout en France, hein, mais dans certains massifs forestiers particulièrement touchés. C'est là où j'ai fait surtout mon enquête, c'est-à-dire dans le Morvan, dans le massif forestier du Morvan, dans le Limousin, sur le plateau des Mille Vaches et aussi dans les Landes. Mais également, on peut remarquer des plantations résineuses qui se développent beaucoup dans le Beaujolais. Et donc, cette industrialisation de la sylviculture, elle n'est pas forcément récente. Hein, elle est apparue après-guerre, en 1946, par les mêmes personnes qui ont poussé aussi à l'intensification de l'agriculture. Il y a eu le plan Marshall qu'on connaît bien pour l'agriculture, mais il y a eu aussi le Fonds forestier national pour les forêts, pour planter sur d'anciennes friches agricoles ou sur d'anciennes forêts de feuillus, des massifs résineux, des monocultures qui sont plantées au cordon comme des rangs d'oignons. Et ça se fait dès les années 50 et en parallèle de l'exode rural. Et dès ces années-là, on a des paroles de politiques qui poussent à cette industrialisation, à ce productivisme. On se rappelle notamment de ce que disait Christian Delaballe, qui était le premier directeur de l'ONF. Il disait « il faut créer partout une obsession de la productivité ». Michel Cointat, qui était ministre de l'Agriculture, disait « si à partir du moment où on peut faire de l'argent en forêt, on peut la traiter comme un champ de patates ou un champ d'oignons ». Donc on voit le parallèle avec l'agriculture, c'est fait de manière historique et ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, on est face à un risque supplémentaire. On est dans une forme d'intensification de cette industrialisation du fait de l'arrivée de grosses machines à la fin des années 90, notamment des abatteuses et d'une surmécanisation en fait des travaux sylvicoles qui sont apparus dans ces années-là, et aussi à partir des années 2000 avec notamment le Grenelle de l'environnement, la multiplication des énormes usines à biomasse qui utilisent le bois donc pour faire de l'électricité. Et ça, ce sont deux menaces plutôt contemporaines qui poussent à une surindustrialisation de la forêt et à une pression supplémentaire sur les massifs forestiers. Alors aujourd'hui, en France, on subit pas de déforestation massive comme on peut le voir en Amazonie ou en Indonésie, mais on subit plutôt une situation qui pourrait s'apparenter à la malforestation. C'est un peu comme la malbouffe, finalement. C'est-à-dire qu'on a une nourriture en abondance, mais de mauvaise qualité. Et ben, la forêt, c'est un peu la même chose. Elle représente un tiers du territoire. Elle grandit. Hein. On gagne des centaines d'hectares chaque année. Mais c'est une forêt qui est de plus en plus... qui perd en qualité, qui perd en âge aussi. 80% des arbres en France ont moins de 100 ans. Donc, c'est quand même une forêt qui rajeunit parce qu'on la coupe de plus en plus tôt. Et aussi qui se standardise avec le développement de monocultures résineuses, ce qu'on appelle cet enrésinement. Rien que dans le Morvan, il faut imaginer que dans les années 70, il y avait 23% de résineux, et aujourd'hui, on est autour de 50%. Enfin, en 2003, on était autour de 50%, et aujourd'hui, les associations de défense de la forêt disent qu'on est plutôt autour, on a même dépassé les 50%, on est plutôt autour de 60%. Donc, l'enrésinement se voit particulièrement sur certains massifs, notamment aussi dans le Limousin, où 9 plants sur 10 aujourd'hui qui sont plantés, c'est du Douglas. Le Douglas, c'est une essence qui vient des États-Unis et qui c'est de Californie du Nord, enfin de l'Oregon, et qui est développée ici en France parce qu'elle pousse très vite et on les coupe à 35 ans. Ce qui est une aberration, on pourrait dire, d'un point de vue des écosystèmes, parce que en 35 ans, l'arbre prélève énormément de minéraux dans le sol, mais n'a pas le temps de les redonner. C'est que quand il arrivera à maturité, autour de 80 ans, qu'il pourra redonner des minéraux au sol. Donc là, en les coupant aussi jeunes, on appauvrit aussi le sol. Évidemment que les abatteuses, la surmécanisation, l'industrialisation de la sylviculture a des conséquences sur les biotopes, sur les écosystèmes assez dramatiques, avec de l'érosion des sols, le sol qui est complètement décapé, le fait aussi que la forêt, le sol forestier s'acidifie avec les monocultures résineuses. Enfin voilà, il y a tout plein de conséquences à la chaîne qui fait qu'on assiste à un appauvrissement du milieu et que ces forêts ne sont plus que des chimères, des ersatz, et donc c'est des champs d'arbres en fait, des plantations d'arbres. Voilà, c'était sur ces points-là que mon livre souhaitait un peu alerter les citoyens, les citoyennes qui finalement on connaît pas très bien ce milieu forestier.
Alors, on fait juste une petite pause musicale et on reprend tout de suite après. Notre entretien avec Gaspard Dalens, toujours sur CFM, dans combien de temps encore? Alors, il y a aussi le problème que ça génère, le fait de planter des résineux, ça veut dire qu'on a abattu des essences plus anciennes, pour planter ces champs d'arbres. C'est aussi une destruction, ça engendre une destruction de forêt avec, je crois qu'il y a, on a 156 essences d'arbres différentes. Et ça veut dire que ce sont des arbres abattus pour planter des résineux. Le drame, il est peut-être là aussi. Il y a les pesticides aussi qui sont employés, puisqu'il n'y a pas vraiment de réglementation, je crois.
Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on entend, il y a un grand débat, on va dire, sur le glyphosate en agriculture, mais on savait moins que du glyphosate était épandu dans certaines monocultures résineuses, notamment dans les Landes, par de grands propriétaires forestiers, et ce qui contribue à polluer, en fait, à contaminer les sols, mais aussi le miel d'apiculteurs qui s'étaient installés dans les forêts parce qu'ils avaient fui les champs agricoles. Et finalement, toutes leurs colonies d'abeilles vont être contaminées au glyphosate. En fait, donc on voit bien qu'il y a des pollutions assez fortes. Alors oui, on a la chance aussi d'avoir en France des forêts diversifiées, des forêts de feuillus. C'est vrai que dans certains massifs forestiers, comme dans le Morvan, on voit ces forêts de feuillus rasées, coupées à blanc pour laisser place à des monocultures de Douglas qui ressemblent à des champs d'arbres et qu'on moissonne finalement comme du blé. Et c'est vrai qu'une coupe rase est quand même assez violente. Ça veut dire qu'on va couper... tous les arbres et détruire tout un écosystème sur plusieurs hectares. Et sous prétexte qu'on va planter ensuite d'autres essences, on pense que c'est pas dangereux, mais ça détruit quand même des écosystèmes, ça détruit des petits vertébrés, ça détruit des lieux d'emplacement, d'habitat pour les insectes, pour les oiseaux, ça tasse les sols, ça crée un puits de lumière qui détruit aussi les champignons mycorhiziens, donc c'est ce qui permet la symbiose en fait entre les arbres et le sol. Enfin, donc il y a beaucoup de conséquences d'un point de vue de biodiversité et beaucoup d'enquêtes qui sont menées, mais c'est vrai que ça n'empêche pas pour autant que qu'il y ait un agrandissement des plantations aujourd'hui en France. Oui.
Alors, au niveau de, en plus. Le problème que vous soulevez, c'est ce problème de produire de plus en plus de productivisme, hein, de centralisation, disparition des scieries. Et ce qui est aussi paradoxal, c'est que le bois, il est coupé trop jeune, il est vendu, il n'est pas exploité à sa juste valeur. Il est exporté en Chine et il revient vendu en meubles plus cher. Donc en plus, il y a une on est en vase clos, mais il y a, même si on reste dans une logique, dans cette logique désastreuse de rendement, c'est à perte en plus. En plus, il y a une, c'est même pas rentable en fait. En plus, alors la façon d'exploiter, de raser les arbres trop jeunes, c'est que dans un chapitre, il y a un bûcheron qui explique que même des feuillus qui sont abattus, qui sont vendus pour être massacrés, même pas utilisés pour faire en menuiserie ou en charpente. Donc il y a tout un gâchis en plus engendré par cet enracinement et les coupes rases d'arbres trop jeunes.
Oui, c'est tout un système économique en fait qui tourne pas rond et on le voit très bien. Aujourd'hui, on a un usage bas de gamme de notre forêt et aussi oui une perte de plus-value. Alors c'est rentable pour certaines personnes au sein de la filière forestière, mais d'un point de vue économique global, le système actuel productiviste est complètement aberrant. D'ailleurs, c'est un peu comme dans l'agriculture, hein. Faut imaginer que le déficit commercial français, le deuxième poste de déficit commercial français Après, les hydrocarbures, alors les hydrocarbures, on peut comprendre parce qu'on n'a pas de pétrole, mais bah, c'est la forêt, c'est le bois en France, à hauteur de 6,7 milliards d'euros par an. On a ce déficit commercial sur la question du bois et de la forêt, parce que oui, on va exporter 20% des hêtres, 30% des chênes coupés en France, en Chine, qui vont nous revenir en meubles 20 fois plus cher. On a aussi toute l'économie de la première et de la seconde transformation, donc c'est les scieries, c'est les menuiseries, les charpentiers, enfin toute cette économie-là, c'est les fabrications de meubles aussi, toute cette économie-là, a été démantelé en fait, parce qu'on a privilégié plutôt des grosses structures comme l'énorme scierie de Hourmat. En 2007, Nicolas Sarkozy prenait des mégapoles de sciage, donc il voulait faire construire 6 scieries à travers la France sur la diagonale du vide, et il appelait ça la diagonale des scieries, donc faire des énormes scieries au lieu et place de soutenir des petites scieries artisanales qui font du sur-mesure, qui font des circuits courts, qui valorisent une filière locale et un territoire, un pays. Là c'est différent, là on est dans de la compétition internationale, dans du just in time, dans de l'industriel, et en fait compte, c'est pas rentable, et c'est pas désirable, et c'est pas rentable en fait comme filière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en parlant des forêts, on parle à la fois des écosystèmes, mais on parle aussi d'une question qui est économique, on parle d'une question qui est avant tout sociale aussi, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans la forêt aujourd'hui et qui sont malmenés en fait par ces politiques et ces logiques productivistes, et ça on le sait pas assez, c'est le fait que les bûcherons soient des tâcherons et travaillent énormément et avec des risques d'accident considérables, que leur espérance de vie c'est 62 ans, donc ils profitent à peine de la retraite, c'est un des métiers les plus dangereux. Le fait aussi que l'ONF, l'Office National des Forêts, donc qui est le service public forestier, se retrouve face à des réformes néolibérales depuis les années 2000, qui fait qu'ils perdent des salariés. Ils sont passés de 15 000 salariés à 9 000 salariés. Donc c'est une privatisation rampante et ça a créé quand même énormément de suicides dans la profession. On n'en parle pas assez, quoi. 40 suicides en 10 ans au sein de l'ONF, c'est considérable. Et donc voilà, c'est une question sociale et une question écologique, une question d'écologie sociale.
Ouais. Alors, on fait juste une petite pause et ensuite on reprend l'entretien.
So I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Set me free. You really got me now.
Vous êtes bien sur CFM dans l'émission Combien de temps encore, et on reprend donc l'entretien avec Gaspard Dalens pour son essai Main basse sur nos forêts. Donc voilà, ça met vraiment, c'est ce que vous, voilà, ça met vraiment en jeu des problèmes fondamentaux, je dirais, de nos sociétés. Et là où vous insistez, voilà, bien, enfin, vous mettez bien en évidence dans votre essai, c'est que c'est lié les solutions. Les vraies solutions qui respectent le vivant, qu'on peut apporter, qu'on doit apporter aux problèmes écologiques, seront aussi des solutions pour les problèmes sociaux. Et voilà une redynamisation du local, je crois que. Et revenir à une. C'est ce que vous dites, à un moment donné, revenir à une échelle humaine et pas partir sur du gigantisme. Alors, il y a des solutions quand même qui sont mises en place. On peut peut-être parler déjà du RAF ou d'autres associations que vous avez pu rencontrer et qui mettent en place ce qu'on appelle, je crois, la sylviculture douce. Voilà.
Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se dire, c'est que la sylviculture industrielle, c'est un épiphénomène dans l'histoire. Dans l'histoire des savoir-faire, dans l'histoire de la sylviculture, il y a aussi d'autres manières et des alternatives pour gérer autrement la forêt, pour cohabiter avec elle, avec cet écosystème, cette entité qui est vivante. Et donc, il y a évidemment des sylviculteurs, des forestiers indépendants, des charpentiers, des menuisiers, partout dans la filière, des gens qui proposent d'autres manières de travailler le bois, des associations qui sont constitués comme SOS Forêt, comme le RAF, le Réseau pour les Alternatives Forestières, aussi ProSylva qui est un syndicat de forestiers qui propose le développement de la futaie jardinée, de la futaie irrégulière. On pourrait dire que c'est un peu l'équivalent de l'agriculture bio dans l'agriculture, justement, enfin dans le sens où au lieu de planter des arbres, on va privilégier la régénération naturelle. Au lieu d'avoir une monoculture, on va essayer d'avoir une diversité d'essences dans ces forêts, et au lieu de proposer une coupe rase, on va avoir une sélection pied à pied de ces arbres. Et il faut imaginer que c'est pas négligeable aujourd'hui. La futaie jardinée, elle est utilisée pour des centaines de milliers d'hectares en France aujourd'hui. Donc, il y a des forestiers qui sont mobilisés. Je pense que c'est pas uniquement à travers notre consommation aussi qu'on changera les choses. C'est-à-dire que c'est pas seulement en se disant, même si c'est important de se poser la question, d'où vient cette table, comment elle a été produite, qui a coupé le bois, comme un peu on se dit la question, on se pose ces mêmes questions-là pour l'agriculture, pour les légumes et tout ça. Il faudra se poser ces questions-là, mais c'est pas suffisant. Il faudra aussi rentrer dans des luttes plus politiques. Et je pense que ça, c'est très important. On l'a vu récemment, il y a eu des mobilisations contre les coupes rases dans le Morvan. Il y avait 500 personnes qui se sont opposées à une coupe rase dans le Morvan. Il y a des luttes qui émergent dans nos forêts, notamment aussi contre les grands projets inutiles et imposés, où la forêt se retrouve souvent en première ligne. En fait, je pense à Bure, là où il y a le projet d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs qui risque de raser une forêt. Je pense aussi à Sivens, où quand même Rémi Fraisse est mort pour défendre une forêt. contre ce projet de barrage. Donc voilà, on voit que partout en France, il y a aussi des luttes politiques qui sont menées, et je pense que c'est très important de les soutenir et de soutenir aussi des alternatives forestières qui sont bien présentes dans nos forêts, mais trop souvent invisibles aux yeux du grand public.
On va peut-être clore là. C'est vrai que j'ai commencé votre essai. J'étais pas du tout au courant de ce qui se passait dans nos forêts. Ça c'est vrai que je pense que c'est vraiment un aspect méconnu. Donc j'espère que petit à petit, au gré des émissions, que les gens puissent prendre conscience que il faut aussi se mobiliser pour nos propres forêts, et c'est ce que vous dites, entreprendre des actions sur le terrain et plus politique.
Mais c'est aussi, je crois, une réflexion philosophique qu'il faut que nous menions tous ensemble sur le fait que nous vivons dans un système qui nous coupe du vivant et qui nous sépare, en fait, qui nous sépare de ce vivant, qui nous incarcère dans un milieu hors sol, en fait. Il y a des études intéressantes qui ont comptabilisé le nombre d'heures qu'on passe à l'extérieur. Et en fin de compte, on voit que nos enfants passent autant d'heures à l'extérieur qu'un prisonnier dans une prison. Donc voilà, on est quand je dis qu'on est incarcéré en fait dans un système qui nous déconnecte du vivant, c'est véritablement le cas, quoi. Et donc voilà, moi c'est aussi un appel à se réapproprier ce bien commun, à réhabiter ce lieu, à plus y aller, à renouer avec des savoir-faire aussi, faire son bois, aller à la cueillette, se réapproprier ce bien commun. Oui.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Et voilà, en espérant qu'il y ait une prise de conscience. Et puis surtout, voilà, je m'abase sur nos forêts, je le recommande vraiment aux auditeurs. Parce que je pense ne pas être la seule à méconnaître complètement ce problème, quoi. Voilà. Si ça peut faire prendre conscience. En tout cas, merci beaucoup.
Et merci à vous.
Voilà. À bientôt et bonne fin de journée.
Oui, au revoir.
Au revoir.
Je sens des boules et des bandes agitées. C'est l'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes d'un coq que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la brinque ton amour m'ont épuisé. Agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à semer comme un de dingue, comme de fous alignés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me donner. Toi qui fais
bien sur CFM dans l'émission Combien de temps encore. Et nous allons recevoir Emmanuel Buroni, président de l'association Vallée Éco à Ginals dans le Tarn-et-Garonne, qui donc au niveau local propose des formations en sylviculture douce, notamment pour des propriétaires de bois ou de forêts, ou également des passionnés ou des personnes intéressées par une exploitation respectueuse du vivant de nos forêts. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Fred.
Donc tu fais partie de... Alors déjà tu es président de l'association Vallée Éco et tu fais partie du RAF aussi. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, présenter un peu voilà, déjà l'association et ce que tu fais au niveau des forêts?
Tout à fait. Oui, donc nous avons un lieu associatif à Ginals, à Béguin, où on vous reçoit aussi dans le cadre festif des Guinguettes l'été et de formation autour de l'éco-construction. Et appartenant au RAF depuis une dizaine d'années, je propose des formations à l'éco-construction avec du bois issu de sylviculture douce. Parce que écologie, d'accord, mais d'où vient le bois qu'on utilise et comment il est exploité? Donc le RAF a mis en place une formation d'initiation à la sylviculture douce qui dure 5 jours. Et nous avons créé à la suite un chantier de formation de l'arbre à la poutre pour aller un peu plus dans la pratique avec justement les agriculteurs ou propriétaires forestiers ayant des projets de construction et désirant, avec le bois issu de leur forêt, de réaliser ces constructions en bois.
Alors, au niveau justement de la sylviculture douce, de la forêt en général, tu me disais déjà tout à l'heure qu'une forêt, elle n'a pas besoin de nous pour exister. Et que la moindre des choses, c'est qu'on puisse au moins la respecter quand on l'exploite. Et que les coupes rases sont une aberration. Et que justement, vous essayez de mettre en place une exploitation en respectant tel ou tel arbre. Donc c'est des exploitations qui s'échelonnent au cours du temps, mais qui sont finalement, en plus d'un niveau rentabilité, qui sont en plus rentables.
Exactement. En fait, vraiment la sylviculture industrielle a fait les mêmes erreurs que l'agriculture intensive. C'est-à-dire qu'à grands coups de subvention, on change les réels coûts des matières qu'on crée. Donc on rase tout, on va donner des milliers d'euros à des propriétaires pour commencer par raser une forêt endémique extrêmement riche au niveau de la biodiversité. Après, faire passer le bulldozer pour terraformer, c'est vraiment des termes de science-fiction, des énormes machines qui vont tout péter. Et on va mettre à grand renfort de subventions toujours, à tous les niveaux, des plans. Alors maintenant, on en est carrément aux AGM, arbres génétiquement modifiés, issus d'énormes pépinières industrielles. Et là, on arrive au cœur du problème. C'est-à-dire qu'on arrive dans la même problématique que dans l'agriculture intensive. C'est-à-dire que là, il faut des intrants chimiques, il faut énormément de temps de travail de TP avec des machines de plus en plus grosses pour finalement, quand on regarde le bénéfice, s'il n'y a pas de subvention, c'est entièrement à perte, tout ce genre de récolte. Et en plus, on a modifié les paysages qui appartiennent à tous les habitants. La qualité du bois, en plus, est vraiment dérisoire. C'est-à-dire que là, l'industrie du bois en France ne travaille que des arbres d'un diamètre maximum de 40 à 50 cm. Ce qui est complètement aberrant, parce que le Douglas, il arrive à 40 ans à ce diamètre-là, et là, il est encore juvénile. Il va commencer à être intéressant, c'est-à-dire qu'il y aura une part d'aubier inférieure au duramen, au vrai bois, au cœur de l'arbre, supérieure pendant sa jeunesse, et à partir de 60 ans environ, la tendance s'inverse. Et là, on se retrouve avec une part de duramen beaucoup plus importante que la part d'aubier. L'aubier, on n'en veut pas, personne n'en veut. C'est du bois pas fini, c'est du bois juvénile. Qui est très sensible aux attaques des insectes, des parasites en tout genre, et que personne ne veut utiliser. Donc la moitié de la production, finalement, c'est du déchet.
Et avec des forêts, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement l'exploitation en taille irrégulière, c'est ça ?
En futaie irrégulière.
Irrégulière, voilà.
Alors, c'est vraiment le cœur du processus normal d'un sylviculteur, c'est-à-dire qu'on va laisser des arbres plus matures, des arbres adultes, des semenciers, ensemencer eux-mêmes leurs alentours. C'est-à-dire que là, le coût, il est zéro. C'est gratuit. Les graines des arbres, c'est gratuit. En plus, ils se développent à l'abri du soleil. Ils vont avoir tendance à pousser un peu plus rapidement vers la hauteur, donc d'être plus droits que des arbres exposés au vent et aux aléas climatiques en tout genre. Donc du bois de bien meilleure qualité. Et en plus, avec une diversité d'espèces naturelles. On n'a pas besoin d'acheter... de toute façon, on ne trouve pas. Aujourd'hui, de plants, c'est extrêmement difficile de trouver des plants des 156 espèces trouvables en France, alors qu'elles sont là, dans la forêt. Si on ne la passe pas au bulldozer, tout est là. Tout est gratuit, tout est là. Il n'y a pas de coût de travaux forestiers, mais qui se chiffrent par dizaines de milliers d'euros hein, sur une forêt. Il faut bien avoir conscience. Donc là, le but de cette sylviculture douce, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner la nature. Nous sommes des prédateurs, ok, nous avons besoin de bois énergie, de bois pour nous chauffer, de bois pour construire nos maisons, mais respectons cette forêt, respectons l'équilibre naturel, nous aurons toujours un paysage agréable autour de nous, et nous aurons une production à moindre coût, de bien meilleure qualité. Donc voilà, là, c'est un peu ce que nous, on essaie de mettre en lumière pendant nos stages. Là, les prochains stages se dérouleront au mois de mars. Du 2 au 6 mars, le stage d'initiation à la sylviculture douce, suivi du 9 au 13 mars par un stage arbre-poutre. Et là, nous partons dans le Tarn, parce que c'est un petit peu difficile avec les forêts de notre vallée de sortir du bois de construction. Hein. On n'a pas vraiment de taille d'arbre pour faire du bois d'œuvre. Donc on va aller chez Mathias Bonneau, dans le Tarn, avec Étienne Lescure, qui est le maître scieur local, une référence même nationale maintenant. Hein, et nous allons donc couper des arbres pour un projet de construction d'une maison qui sera construite à côté de Vaour l'année prochaine.
D'accord. Et donc, redonne-nous bien les dates. Donc le stage dans le Tarn, dans la Montagne Noire, je crois.
Ouais, du 2 au 6 mars et du 9 au 13 mars.
D'accord.
Toutes les infos seront le blog.
Le blog là, voilà,
CFM,
il va y avoir.
Je le retrouverai aussi sur le site du RAF, sur le site de Vallée Éco.
De Vallée Éco, il y a un site, il y a un blog. Donc là où il y a également beaucoup de renseignements sur les stages et puis sur les liens, il y a des liens.
Tout à fait, je te proposais vous êtes intéressés, si les auditeurs sont intéressés, je te ferai passer une série de liens, de petits films, de petites vidéos, de sites où on peut retrouver ce dont on a parlé, tout ce dont Gaspard parle aussi. Hein, et c'est vraiment très très bien ce livre, c'est vraiment pour découvrir ce monde très complexe, c'est très très bien. C'est vraiment basé en plus sur la France. Il reprend son introduction est absolument magnifique et fait vraiment le tour en quelques pages de la problématique française.
Et donc cet enrichissement de tous les liens seront sur le blog, sur le podcast. Sur le podcast de l'émission Combien de temps encore, et on pourra donc retrouver tous les liens que tu vas me donner. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu et bon courage, bonne chance, et voilà, il faut garder espoir.
Avec grand plaisir, au revoir Fred.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule.
Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.
Venga, baila y mataré nosotros.
Cette émission Combien de temps encore est terminée. On se retrouve donc le mois prochain. Vous pouvez également réécouter en podcast sur CFM Combien de temps encore, avec de nombreux liens que vont, voilà, qui vont être fournis par, par Emmanuel Buroni. Bonne soirée, à bientôt.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.